Je peux encore refaire de mémoire le parcours de Tricky Bee, le meilleur jeu auquel j'ai joué enfant. D'abord, la bille s'élançait sur un long pan de corde qui cassait en zigzag. Si on accordait ceci au mouvement de la bille, on traversait sans encombre. Un aimant nous emportait ensuite jusqu'à un rail métallique dont on contrôlait l'écartement pour accélérer la bille tout en la retenant. De là, on passait à un plateau mobile à deux sorties, l'une étant fatale, l'autre abouchant sur des sortes de pas japonais qui faisaient remonter la bille via un cerceau enflammé jusqu'à un labyrinthe orange. La bille était dès lors provisoirement invisible et seulement accordée au mouvement de notre main. Si on échappait à la passe terminale, on pivotait sur un morceau de plastique imité du bois jusqu'à une catapulte rouge qui nous envoyait frapper contre une petite cloche. On pouvait alors arrêter le bruit de grignotement du compteur mécanique. Le jeu appartenait à mon cousin et son père en possédait une version épaisse purée, en bois clair, qui présentait pour moi beaucoup moins d'attrait. La bille en acier circulait dans un labyrinthe sobre, parsemé de trous et mis en mouvement par deux molettes noires. L'inspiration qui regardait était évidente. Cette fine planche de bois nous retenait d'une chute irréversible dans le néant, et la chose était bien d'une belle netteté luthérienne et danoise, mais l'ensemble manquait de cet exotisme à la Indiana Jones qui faisait le charme de Tricky Bee. De même, avec ce portage du jeu sur Game Boy, le glaçant Marble Madness, qui peinait, de par sa sobriété même, à nous passionner vraiment. Le monde du jeu ne pouvait se réduire à l'action épurée d'un seul mécanisme. Nous avions besoin de tout un décorum, d'une raison d'y croire supérieure à cet écran métaphysique. Je m'étais fait la remarque un jour en jouant à la bataille, sans doute, le premier jeu que j'ai appris. Tout le déroulement de la partie se tient, ramassé et définitif, dans la façon dont les deux paquets de cartes, le paquet rouge et le paquet noir, sont agencés. Le fait de jouer ne changera rien à l'ordre déterministe des choses. Le hasard était nul, mais notre connaissance de l'issue du combat demandait qu'on joue une partie entière pour connaître le gagnant. Il y avait là un paradoxe qui m'enchantait, l'idée que le déterminisme le plus pur pouvait s'accompagner d'un déficit d'information tel qu'il ressemblait à la liberté, et que si nous voulions connaître notre destin, la seule chose que nous puissions faire, c'était de jouer sérieusement notre vie. J'étais cependant aussi subjugué par des jeux aux implications métaphysiques plus basses, comme ce jeu de dés en trois dimensions appelé Attrape-souris, qui consistait à assembler un gigantesque pièce de plastique qui déclenchait la chute d'une cage sur la malheureuse souris perdante, ou par la gigantesque carte en relief du jeu L'île infernale, dans lequel une idole monstrueuse crachait sur les joueurs des boules de lave. Le jeu complet se négocie aujourd'hui autour de 150€ sur eBay. Ma génération semble avoir fétichisé, outre mesure, cette parodie de fétichisme. C'était en tout cas la première fois qu'un jeu de plateau était destructible. Les billes de lave emportaient avec elles les frêles ponts en bois jetés à travers les vallées volcaniques. Le jeu exauçait ainsi une promesse de chaos entrevue dans cette publicité pour une porte des enfers du jeu des maîtres de l'univers qui déversait du slime verdâtre par une tête de mort sur quiconque la franchissait. Mon jeu préféré était cependant un jeu plus ambigu, avec l'idée de déterminisme, un hybride entre les échecs et les dés. Il s'agissait des petits chevaux et de leur impossible parcours en croix, qui exigeait un usage immodéré de la chance pour parvenir à faire enfin passer ces quatre chevaux de l'écurie au centre étoilé du plateau. Contrairement à la bataille, le jeu de hasard s'accompagnait ici d'un peu de stratégie. On devait décider si on jouait les chevaux tous ensemble ou si on les faisait avancer les uns après les autres. Ni les échecs, ni les dames ne m'ont responsabilisé à ce point sur le poids écrasant de mes décisions libres. Seul peut-être le jeu de loi, avec la terrifiante configuration de la case du puits, cette écurie dont aucun cheval ne sortira jamais plus, à moins qu'un autre pion vienne y prendre notre place, donnait à ce piège l'aspect d'une malédiction infinie dont aucune image de trou noir n'a jamais réussi à égaler l'horreur.